Quay.
Bonjour, Robert Blondin ici avec Alexis Wananoloat qui est de retour parmi nous. On est bien content.
Ben oui, la vie est un peu compliquée pour moi ces temps-ci. J'essaie d'être là quand je peux.
Pour pas mal de monde.
Ouais. Donc, premier sujet aujourd'hui, on a regardé l'émission Enquête qui a passé dernièrement.
Et ça manquait pas de matière.
Non, ça manquait pas de matière. Toute une émission consacrée sur le sujet métis pour certains, usurpateur pour d'autres.
À condition qu'on sache ce que ça veut dire métis, et ça, c'est pas réglé non plus.
Non, parce qu'il y a des définitions légales, il y a des définitions historiques, puis il y a des
définitions
logiques et du dictionnaire.
Oui, c'est pas la même chose. Avec nous, Éric Pouliot-Tisdale, qu'on a beaucoup vu. Bonjour, Éric.
Bonjour, comment allez-vous?
Quoi, Éric, ça va bien?
Oui.
Une participation que tu as eue importante à l'émission Enquête. Est-ce que, prenons un point de vue général, est-ce que l'émission allait dans un sens qui a fait ton affaire?
Ben oui, je trouve que oui, parce que c'était plutôt l'aspect neutre scientifique à la base, parce qu'ils ont quand même regardé les deux côtés de la médaille. Mais il y a aussi éventuellement la logique scientifique, disons, si on veut mettre ça comme ça, fait en sorte que finalement, c'est plutôt moindre la réalité des gens qui se prétendent métis.
On a le temps aujourd'hui, si on commençait, Éric, par le commencement avec Alexis aussi. C'est quoi finalement être un métis? Au Canada, là, on peut faire du métissage ailleurs dans le monde, là, mais au Canada, être métis, ça veut dire ou ça voudrait dire, voyons les deux, ça voudrait dire quoi?
Bien, les gens, ceux qui ont fondé la nation métis, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, principalement aux alentours du Manitoba et de l'Alberta, c'était un groupuscule en lien beaucoup avec les développements de la compagnie de la Baie du Son et tout ça, les développements de l'Ouest, qui ont vraiment synthétisé une langue entre l'anglais, le français et la langue algonquienne, qui ont fait un métissage, créolisation culturelle et linguistique concrète. Donc, un groupe qui serait d'origine mixte d'ailleurs, qui n'a pas développé ce dialecte linguistique-là, puis ses mœurs et coutumes spécifiques-là, fait pas partie de cette nation dite métisse-là, tu sais. Donc, quelqu'un peut être métissé sans néanmoins faire partie de la nation spécifique métisse qui s'est développée avec des mœurs et coutumes et une langue concrète.
C'est ça, on peut parler des métis avec un M majuscule quand on parle de la nation métisse et d'une personne qui est métisse avec un M minuscule. C'est un peu une façon de le reconnaître.
Oui, c'est ça.
Mais on peut-tu, écoute, c'est peut-être outrancier ce que je vais dire, mais si on regarde les croisements au niveau biologique, tu sais, quand tu croises un cheval avec un âne, ça fait autre chose. Dans les nations, dans les cultures, quand on se mélange, ça ne fait pas nécessairement une troisième réalité. Ce que tu dis, c'est que les métis n'ont pas développé une culture, et même la langue n'a pas vraiment résisté. Il n'y a pas une culture vraiment, vraiment spécifique, non?
Ben non, c'est ça. Puis quand on leur pose la question, tout le monde parle d'un grand-père qui allait chasser, qui les amenait à la chasse, puis qu'il y avait plein de mœurs et coutumes qui étaient transférées, mais quand on leur demande quelles étaient ces mœurs et coutumes-là transférées, il n'y a personne qui a la même réponse. Donc, il n'y a rien de commun qui ferait une nation métisse.
Ça donne souvent que c'est des Micmacs aussi. On dit qu'ils sont Micmacs ou il y a un ancêtre Micmac. Ou...
Classique aussi, oui.
Mais pourquoi on dit Micmac plutôt que d'autres choses?
Les Micmacs sont très répandus. Moi, j'ai trouvé des gens, des membres avec leur carte de statut, tout Micmac en Abitibi. Il y en a à Montréal. Il y a même les Micmacs de Gaspé ont même un conseiller à Montréal, un conseiller de leur bande pour Montréal, pour leurs habitants de Montréal. Ils sont très, très, très dispersés sur le territoire, les Micmacs.
Si on revient dans l'histoire, Éric, les Métis... Ouais. Si on retourne au temps de Riel, par exemple, dans l'Ouest, est-ce qu'à ce moment-là, la communauté était beaucoup plus homogène? Parce que maintenant, ça a l'air très dispersé, pour ne pas dire dilué, là.
Ben exactement. C'est que tout le groupuscule de Louis Riel, dont une partie qui venait aussi du Québec et de l'Ontario, ont quitté vers l'Alberta puis le Manitoba, Saskatchewan. Donc, ils se sont complètement exodés vers l'Ouest. Ils ont fondé la nation. Louis Riel a été pendu, on le sait, en 1885. Donc, la nation, en 1875 puis 1880, elle était vraiment scellée et bien fondée dans l'Ouest canadien. T'sais. Alors, donc, ceux qui voulaient se joindre à la nation pouvaient le faire, bien sûr. Et puis, c'est sûr que potentiellement qu'il y a des ancêtres de ces métisses-là, mais c'est pas des ancêtres qui n'ont pas poursuivi la culture. T'sais.
Il y a un test qui a été développé par la Cour suprême à ce sujet pour savoir qui est une nation métisse ou pas.
Bien, c'est ça qui est un espèce d'abysse, c'est qu'il y a eu, quelques cas de gens qui ont chassé ou pêché, même jusque dans l'Ontario, qui ont obtenu un répit, disons, de la Cour, qui leur a donné l'existence de leur statut métis, la raison de l'existence de leur statut métis. Mais après, il n'y a plus aucun autre juge qui a voulu poursuivre ou élaborer davantage là-dessus, parce que tout le monde a réalisé que ça créait un immense néant identitaire, puis qu'il y a plusieurs personnes qui prenaient avantage de cette décision-là. Et puis, donc, depuis ce temps-là, c'est l'arrêt parlé. Depuis l'arrêt parlé, quelqu'un qui avait des ancêtres métis assez lointains, puis qui a réussi d'obtenir une clémence pour avoir chassé ou pêché dans le bout de Sault-Sainte-Marie, quelque chose comme ça.
OK.
Et puis, le juge a déclaré que oui, il était métis puis qu'il avait des droits, mais après, il n'y a absolument personne d'autre qui a voulu poursuivre avec ce jugement-là, parce que c'était un chaos, puis c'était répulsé de toutes parts par toutes les nations autochtones et par même la nation métisse de l'Ouest canadien, du Manitoba, qui ont complètement rejeté toutes ces toute cette décision-là, finalement, parce que c'était... Évidemment, il n'y a pas beaucoup de juges qui sont spécialisés dans l'histoire autochtone. Mmh. Et puis, les spécialistes qu'ils ont souvent au fédéral, ça manque beaucoup de...
De rigueur, peut-être?
Exactement. Ça manque beaucoup
de connaissances, tout court.
Et au Québec, ça en manque encore plus, parce qu'avec uniquement juste 2 à 3 % d'Autochtones au Québec, tous les gens qui sont dits spécialistes, si on regarde le sport des cabinets d'avocats... comme tu sais aussi, il y a beaucoup, c'est plein d'Européens. Il y a même des gens qui sont même pas nés au Canada, qui sont dans des cabinets d'avocats pour autochtones. Alors donc.
Ben ça, on peut être spécialiste, peu importe, du droit autochtone. Oui. C'est qu'il manque, il y a un problème dans l'admission des universités pour le droit, entre autres. J'en ai parlé un petit peu déjà à l'émission ici. Je pense qu'il serait important qu'on revise ça pour faire en sorte qu'il y ait plus d'Autochtones. Mais c'est vrai qu'on voit des grands cabinets, puis ça s'en vient de plus en plus à la mode. La question autochtone, donc les grands cabinets s'organisent pour avoir des départements de droit autochtone et en général, c'est rare qu'il y ait des autochtones dans ces...
Toi, tu l'es, avocat, là.
Mm-hmm. Ben, pas encore,
Ben, ça s'en vient bien, là. En connais-tu beaucoup d'autres?
Non, j'en connais pas beaucoup d'autres.
Connais-tu d'autres?
Ben oui, ma patronne à mon cabinet, Néachish Champoux, c'est une Atikamekw, Annie Néachish.
Là, ça vous fait deux, là?
Ben, deux dans ce cabinet-là, puis il y en a quelques autres, c'est sûr. On doit être pas plus d'une centaine au Québec, mais il faudrait regarder la statistique officielle puis voir si on s'autodéclare ou pas. Parce que ça, c'est un autre aspect qu'on a vu dans l'émission, l'autodéclaration, entre autres dans les systèmes carcéraux, n'est-ce pas, Éric?
Oui, effectivement, oui, ça, c'est un gros problème. Puis on a, il y a une foule d'articles de journaux là-dessus. On a même vu, je pense, que des motards qui s'étaient affirmés autochtones pour avoir certaines clémences, pour avoir des, disons, des...
Et ça a fonctionné, là?
Oui.
En prison, oui, ça a fonctionné.
Il y a certains ateliers ou activités où, pour les sortir du quotidien, ils peuvent aller dans des activités spécifiques aux Autochtones. Donc, en s'auto-déclarant autochtones, ils ont comme ils peuvent aller dans des sweat lodges, des cercles de guérison, et ainsi de suite.
Mais ça frise de ridicule. Ça veut dire que un prisonnier qui est là, qui fait son temps d'incarcération, il n'y a qu'à avoir des cheveux longs puis avoir des franges sur le bord de son veston puis il se déclare autochtone.
Ouais, ben c'est ridicule. Ouais, vas-y, Éric, excuse-moi.
Ben non, ça va, mais puis qu'est-ce qui est incroyable aussi, c'est que le personnel engagé est aussi engagé par les mêmes thématiques, c'est-à-dire on fait un X lorsqu'on s'identifie autochtone dans un formulaire d'emploi.
Sans aucune autre vérification.
Aucune autre vérification, parce que selon le gouvernement du Canada et dans beaucoup de ministères du gouvernement du Québec, ça serait de la discrimination d'aller plus loin que d'une auto-déclaration. Mais pourtant, pourquoi on a le ministère des Affaires autochtones qui a le registraire des bandes?
Ouais.
C'est un illogisme complet.
Puis après ça, c'est tout le tort que ça fait aux vrais détenus autochtones qui ont besoin de ces services-là. On voit déjà les causes systémiques qui font qu'on est trop nombreux en tant qu'Autochtones dans les prisons. On aurait besoin. On a droit à ces droits constitutionnels-là, ces services-là, puis on les a pas parce qu'il y en a qui viennent s'auto-identifier.
Mais l'auto-identification, c'est aussi ridicule que d'arriver dans un pays, je sais pas, moi j'arrive en Pologne, j'ai pas de passeport, et je me déclare, je me déclare polonais si vous voulez me laisser rentrer. C'est aussi ridicule que ça, là.
On a tous ces fantasmes. Moi, je rêve de me trouver un ancêtre écossais pour pouvoir porter le kilt légitimement.
Ça, attends, tu serais beau avec ça.
Je le porte des fois.
C'est comme si demain matin, on s'en allait à l'ambassade du Portugal, comme tous les Québécois ont tous l'ancêtre qui s'appelle Pedro da Silva, le premier chef acteur du Canada, de 1670 environ. On a tous quelques-unes de ces filles comme ancêtres au Québec, tant les Autochtones que les non-Autochtones éventuellement métissés. Donc, on pourrait tous aller à l'ambassade du Portugal demain matin puis réclamer une reconnaissance en tant que citoyen néo-québéco-portugais.
qu'est-ce qu'il faudrait, Éric et Alexis, pour que ça change, qu'on puisse, tout en respectant chacun, pouvoir vraiment avoir un outil plus sérieux d'identification? D'abord, est-ce qu'il y en a des critères possibles d'identification?
Bien, qu'est-ce qui est intéressant? On a le programme de démographie de l'Université de Montréal, le PRDH, qui a finalement recensé tous les baptêmes, mariages et décès, toutes les données statistiques du Québec depuis la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui, tout y est. Donc, c'est un registraire. Autrefois, il y avait même Lionel Groulx qui avait fait l'amalgame de tous ces registres-là. Il y a plusieurs dictionnaires depuis le temps qui ont été faits sur des premiers pionniers avec leur enfant. Tous les mariages sont recensés dans ça. Et tout ça, donc, tout est là.
Donc, il faut se fier à la religion, c'est la seule référence qu'on ait.
Bien, dites-vous que aussi la religion, à l'époque, pour obtenir des clémences de la part des intendants et tout ça, bien, en faisant la promotion de la gérance des municipalités, parce qu'en quelque sorte, c'est un peu comme les gardiens municipaux d'époque civile. L'acte civil, c'était l'acte de mariage, de décès, de sépulture, l'acte civil d'époque. Donc, pour tenir un regard sur la population, évidemment, il y avait ça et les recensements.
On va écouter un peu de la musique, mais de la vraie, là, authentique. On revient après.
Bien sûr.
Tes boîtes de quand tu t'as de me tenir et je me tenne ma m'ouvre tes mains tu m'ouvres ta de penaté mais je t'attendais je peux que t'as de me s'nîn qu'à soir maintenant tu dois me couir tu dois me donner tu m'aimes nous quand y'a d'autres c'est qu'à oui nous. Je peux me noigner nos camines couillères. Moi, bientôt, tu cantas ou tu m'agouettias. Tu cantas ou tu m'agouettias. Le menu est délicté, bécis, c'est taillant. La dame, tu gâtes, c'est ta dame. Le mal, tu dénouis. Je me noie de le men le den 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 le den
avec j'aime le noir de
C'était Dan George McKenzie, sa chanson Nishim, c'est un Innu de Malioténam.
Parlant d'identité, ben, on commençait avec toi, Alexis. Les codes d'appartenance, c'est quoi? Comment ça fonctionne pour appartenir à une nation ou à une autre?
Ben, c'est ça, Eric. On parlait des solutions. Toi, tu nous parlais, je vais te laisser finir sur toute la généalogie. Tu penses que c'est une des bonnes solutions d'avoir une bonne généalogie?
Ben, en partie, parce que, tu sais, comme par exemple, je veux dire, tous les registres sont là.
Okay.
On a même la preuve, il y a quelqu'un à un moment donné qui faisait le quelqu'un qui faisait un recensement en 1891 à Saint-Urbain qui explique que pour l'enregistrement de la famille Neptune, j'ai été obligé de faire 48 000, ce qui m'a pris 2 jours. Donc, ils n'ont pas omis personne, là.
Oui, oui, oui.
Il y a même quelqu'un à Kennesataki, dans le bout de 1911, qui ne voulait pas répondre au recensement. Et puis, c'est soit qu'il faisait une semaine de prison ou qu'il payait 200 $.
Alors,
200 $ ont été payés.
Bon.
Alors, de dire que les gens voulaient cacher les ancêtres et tout ça, c'est comme aussi, il y a quelqu'un qui mentionnait que des Blancs, quelqu'un qui s'est marié dans une réserve, c'est parce qu'il était autochtone.
Mm.
On l'a vu dans l'enquête, ça, quelqu'un qui spéculait que parce que son ancêtre était né dans une réserve, s'était marié dans une réserve, qu'il était autochtone, mais non. À Kanawake, il y avait à peu près une vingtaine de familles qui ont vécu là jusqu'en 1970, des familles de Québécois qui vivaient là. Il y a plus dans les missions, il y avait des gens qui travaillaient avec le clergé qui aidaient à développer l'agriculture pour sédentariser les Autochtones qui étaient des Blancs.
Donc, si je synthèse, qu'est-ce que tu nous dis, Eric, c'est qu'on a quand même des bonnes bases généalogiques pour pouvoir leur faire confiance. Il faudrait peut-être les mettre de l'avant puis mieux les étudier.
Exactement.
OK. Un autre aspect par rapport à cette appartenance-là qu'on entend souvent, c'est que les critères pour savoir qui est un Indien ou pas, donc les critères qui nous identifient viennent de l'État colonial, viennent de la loi sur les Indiens. Beaucoup disent que une des solutions à ce problème-là vient des codes d'appartenance ou des codes de citoyenneté que les différentes nations pourraient avoir, les différentes communautés pourraient avoir, pour justement être capable d'aller reconnaître des membres, des personnes qui auraient fait des apports sans nécessairement avoir la généalogie. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de solution-là?
Ben, c'est un peu, ça peut être une bonne idée, sauf que en pratique, on le voit pas vraiment. C'est un peu rêvasseur comme idéal. C'est un idéal, mais que personne vraiment met en pratique.
Okay. Puis
parfois, je connais des gens, disons, je connais une personne qui s'est mariée avec une Atikamekw, c'est un Québécois, puis par les aînés, il est reconnu comme un Atikamekw. C'est comme dans sauf qu'il n'y a pas le statut de Tikamek, puis il ne le prétend pas non plus.
Non, mais je comprends, mais là, il est intégré dans la nation, il doit parler à Tikamek. C'est justement, c'est quoi ces critères-là? Beaucoup pensent justement qu'on devrait arrêter de se baser juste sur les critères coloniaux, puis mieux les définir nous-mêmes, peut-être.
Oui, ben c'est parce que je pense que cette personne-là est très impliquée dans la communauté. Il habite dans la communauté, puis il fait en sorte que son enfant, que ses enfants avec sa femme à Tikamek se développent dans la culture esclave.
Donc, ça donnerait la possibilité de devenir autochtone, finalement.
Pas vraiment. C'est ça aussi le problème. C'est comme on voit dans les anciens, on voyait même des chefs Mohawks autrefois qui adoptaient des Noirs, qui adoptaient des Blancs. Mais quand quelqu'un se fait adopter par un clan, par exemple, il demeure un Blanc adopté dans un clan Iroquois. Il ne devient pas un Iroquois, tu sais. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là qu'il faut tenir en compte, c'est que quelqu'un qui est adopté par une communauté ne change pas ses propres origines à lui, là.
Mais dans ce flou identitaire, Eric, ça a donné la place à des possibilités d'imposteurs de façon incroyable. Moi, je me souviens de Grey Hall, je ne sais pas si vous avez connu, vous autres. Là, il était d'origine anglaise. Et il a parcouru le monde entier pour parler du message autochtone. Bison Ravi à Montréal, ça c'était dans ma gang à l'époque, des années 60-70. Ce gars-là venait du nord de la France et oui. il était critique de cinéma, il a écrit des livres, de la poésie, c'était plein. Il y en a un autre que vous avez peut-être connu, c'est Chief Buffalo Charles Longlands. C'était aussi un Blanc complètement, mais qui a fait carrière comme vraiment représenté.
Dans les dernières années, on a plus entendu parler de Aigle Bleu.
Oui, c'est ça que j'allais
dire. c'est plein comme ça. C'est comme, t'en as un qui c'est drôle à dire. Il s'appelait Will James, faisait passer pour un Amérindien. Il s'appelait Ernest Dufault. Et c'était l'oncle de Pierre Dufault, qui était le commentateur sportif, et le grand-oncle de Luce Dufault, la chanteuse. Mais il a passé sa carrière, c'était le meilleur auteur de romans western. Il était supposément indien.
Ah oui.
c'est plein d'affaires comme ça.
Oui, oui. Il en manque pas du tout. Puis, je veux dire, c'est vraiment complexe parce que, par exemple, il y a des gens même qui sont statués en tant qu'Autochtones, mais qui n'ont jamais vécu. Comme moi, mettons, moi, je suis troisième génération autochtone. J'ai grandi à Montréal et tout ça. Oui, j'ai grandi avec des gens qui revenaient aussi de l'école résidentielle puis que leur enfant était en adoption puis toutes sortes de choses comme ça. J'ai vu les aspects rock and roll, disons, de
la réalité autochtone.
Oui, c'est ça, les séquelles des écoles résidentielles et tout ça, puis tout ça. Mais oui, j'ai ma carte autochtone, sauf que quand je marche sur la rue, je me présente pas comme un autochtone, je me présente comme le petit-fils d'une autochtone. Tu sais, c'est comme ça que je trouve qu'il y a beaucoup de ces 31, disons, la troisième génération qui ont eu le statut depuis le début des années 2000, qui poussent un peu l'affaire. Comme on voit souvent, beaucoup de gens universitaires qui ont le statut autochtone, qui sont toute la troisième génération, puis qui, tout d'un coup, ils représentent toutes les autochtones, toute la troisième génération. C'est beaucoup, 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 beaucoup poussé parce qu'ils n'ont pas grandi ou vécu. Peut-être qu'il y en a qui ont passé 2 mois par année sur la réserve l'été, mais c'est pas le même contexte pareil, tu sais.
C'est pas le même véhicule.
C'est ça, exactement. Donc, c'est un peu poussé, je trouve, que ce soit le gouvernement d'Ottawa qui rende les statuts aux Autochtones. Là, ils sont rendus au reste 3e à 4e génération. Ça dépasse les bornes, réellement.
Puis, dans l'émission, justement, l'identité et tout ça, tu trouves que ça dépasse les bornes. On présentait ça comme ton combat. On disait, l'animatrice disait que t'en avais fait ton combat. Est-ce que tu trouves que cette affirmation-là est vraie? Est-ce que c'est ton combat?
Ben non, c'est ça. Moi, c'est parce que les gens m'ont souvent fait. Les gens, sachant que je faisais beaucoup de généalogie, puis d'analyse, de recensement, puis de démographie, les gens qui avaient des requêtes à propos de gens qui prétendaient être des Autochtones me le demandaient.
Mm-hmm. Ouais, t'étais même payé à une certaine époque pour ça.
Oui, c'est ça. Donc, à force de voir que mon service aidait beaucoup les gens à défroquer ceux qui s'auto-identifient autochtones, ben, je trouvais ça intéressant de le faire puis de l'offrir aux organismes là, qui avaient des problèmes avec certaines personnes qui s'auto-identifiaient.
OK, puis donc, comme certains organismes sont venus nous voir, tu pourrais-tu nous faire une petite recherche sur cette personne-là, puis oui, de fil en aiguille, tu as fini par en faire, puis c'est comme si tu détricotais quelque chose, tu suivais un fil...
Oui, exactement, c'est ça. Dans le sens que je trouvais que c'était essentiel de le faire.
As-tu été beaucoup contesté, Éric?
Ah oui, beaucoup, beaucoup. Même, il y a étrangement, même des Autochtones qui m'ont contesté. Et puis, il y a jusqu'à même la semaine dernière, suite au reportage, il y a quelqu'un qui a comme fait une petite enquête sur moi pour finalement... Dans les gens qui enquêtaient, il est tombé sur deux de mes cousins de Bastoyache qui ont dit « Mais on est des cousins. » Fait que là, son enquête a été abolie, disons. Mais donc, il y a des gens qui sont dans une conspiration que ces gens-là ont fourni tellement de choses positives aux communautés autochtones, il faut les accepter. Sauf qu'en réalité, ceux qui disent ça, c'est des gens souvent qui ne sont pas autochtones qui disent ça, ou qui sont membres de l'Alliance autochtone et de groupuscules métis improvisés.
Parle-moi donc de ça un peu, l'Alliance autochtone. J'ai vu ça à l'émission.
Oui, ben,
je connaissais pas ça.
Au début, c'est un organisme qui aidait les femmes qui avaient perdu leur statut, hein, avec la loi sur les Indiens, qui l'ont regagné entre 82 et 85. Puis, c'était donc, il y avait un suivi juridique pour ces femmes-là, un suivi social qui fournissait des HLM, ainsi de suite, des choses comme ça. Mais, éventuellement, il y a plusieurs gens avec des ancêtres lointains de 1600-1700 qui se sont joints à cette alliance-là. C'est là que le chaos s'est créé. Quand les femmes autochtones ont regagné les communautés puis leur statut, eux ont continué de persister. Ils étaient des Autochtones avec leurs ancêtres de 1600 puis 1700. Il y a eu beaucoup de corruption. Ça l'a même fait les journaux à un moment donné, des données personnelles, des membres qui ont été dissipés, tout ça, là, toutes sortes de choses comme ça, des numéros de carte de crédit.
C'est tellement important, l'appartenance culturelle. On veut tous appartenir à un clan, avoir une culture. On a un sentiment de propriété par rapport à cette identité-là. On a peur de se la faire voler, puis de temps en temps... Pour certains, ça les tente d'envoler une s'ils n'en ont pas assez. Ouais. On revient après.
On revient après le...
Yes.
Écoutez, Kouai, bonjour.
C'est pas tout à fait la bonne façon de le dire.
Ben, ça dépend de la nation, justement.
Voilà.
Comme moi, les Abénakis, on va dire Kouai.
Et d'autres disent Koué.
Ouais.
C'est bien pour dire. Hein. Alexis avec nous, avec Éric, Robert ici pour parler de ce problème qu'on a vu en enquête, qui est l'identité autochtone et l'identité un peu mystérieuse des Métis. On a vu, Éric et Alexis, on a vu à l'émission Enquête, il n'y a pas longtemps, une espèce de folklorisation. Des gens qui ne sont pas vraiment des Métis, si les Métis existent vraiment, ça c'est l'autre histoire. Mais moi, ça me frappe toujours de voir ces gens qui, à mon avis, de blanc, invente des danses, des chorégraphies, des costumes, des mythes, en fait, qui ne sont pas du tout d'origine amérindienne. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire ce nom-là, mais je suis blanc, j'ai le droit de faire des erreurs.
Je vais te pardonner. Là.
OK. Mais il y a une espèce de folklorisation qui me semble un peu fautive très souvent.
Je pense qu'il y a un aspect que les gens... Il y a des gens qui veulent aider humanitairement, mais qu'à un moment donné, ça devient une forme de tutoriat un peu péjoratif. C'est-à-dire qu'on aime bien les gens qui viennent collaborer, amener un apport culturel, pas culturel, mais un support. Bon, c'est pas nécessaire de se prétendre métis pour venir supporter les Autochtones. Et ça a été aussi, par exemple, le cas des gens qui travaillaient pour la ville de Montréal, qui s'identifiaient comme Autochtones, qui avait obtenu des postes représentant les Autochtones de Montréal et tout ça, il aurait bien pu le faire sans prétendre avoir des ancêtres autochtones.
Sans se prétendre métis aujourd'hui.
Exact. Les collaborations volontaires sont les bienvenues. C'est pas nécessaire de s'inventer une histoire culturelle avec un ancêtre en 1600-1700. Ça devient rêvasseur un peu. C'est fantasmagorique. Un peu comme en Afrique du Sud. Il y a même des Blancs en Afrique du Sud qui se prétendent avoir un ancêtre noir pour se déculpabiliser. Il y a un petit mouvement, là, c'est plus un tout petit groupuscule, mais c'est un peu comme une espèce de un complexe des peuples colonisateurs qui se sentent pas super bien d'être sur une terre.
Le meilleur exemple que tu donnes pour l'Afrique du Sud, c'est Paul Simon, le musicien, qui est devenu, qui s'est africanisé, en fait, et qui il se trouvait des origines africaines, finalement.
Eh oui, et voilà, c'est ça. Fait que c'est un peu une façon de se déculpabiliser, un complexe des peuples colonisateurs jusqu'à un certain point, qui touche une certaine partie de la population, puis c'est devenu populaire.
Quand c'est pas pour aller chercher des subventions comme pour la corporation Waskaigan.
Oui, oui.
Sais-tu, Eric, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à, pas tout le monde, mais certains Français du plateau Mont-Royal à Montréal, arrivés depuis 2 ou 3 ans à Montréal, et qui font de la musique trad avec beaucoup d'intensité.
Oui, c'est ça.
Ça existe.
Ah, j'en ai jamais vu.
Ah, oui. Comment vous réagissez, vous êtes tous les deux des Autochtones, comment vous réagissez à ce problème métis? Ça vous chicote? Vous aimeriez le régler? Est-ce que pour vous, c'est des demi-Autochtones? C'est pas clair.
Quelqu'un peut être fier d'avoir des ancêtres autochtones. Sauf, ça, c'est bien correct. Tu sais, comme moi, je suis bien fier d'avoir mon ancêtre portugais en 1670. C'est splendide. Mais c'est tout. Ça finit là.
Ça fait pas de toi un Portugais, là.
C'est ça, mais... Puis ça dépend aussi tout le temps que de ton éducation. Puis certaines personnes qui, comme le père de famille qui a été défini à Tikamek par les aînés, puis tout ça, et à un moment donné, c'est justement, faut aller rechercher ces outils-là. Je pense que c'est une des solutions, oui, c'est l'identité, aller faire une bonne généalogie, puis être sûr de ses origines, parce que. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans ces mythes-là aussi depuis leur enfance, puis qu'on leur a peut-être des fois un peu bourré le crâne avec ça, ou puis ils débarquent de haut quand ils apprennent cette nouvelle-là.
Mon père québécois, son père vient de Lévis, mm-hmm. sa mère vient de l'Europe, de la France. Elles sont arrivées ici au Québec, elle avait 6 ans, je pense. Mon père vient de Lévis, est allé couper du bois dans le nord de l'Ontario. Bref, mon grand-père disait à mon père qu'il avait des ancêtres Micmac. Mon père disait qu'il avait des ancêtres Micmac. On a vérifié, il n'y en avait pas. Ça s'est fini là, puis personne ne réclamait quoi que ce soit. Mais on voit que la plupart des grands-parents de l'époque prétendaient ça. C'est fréquent dans le folklore, dans la culture québécoise, de dire qu'il devait bien en avoir un ancêtre, tu sais. Mais c'est un gros mythe. Peut-être qu'il y en avait un. Tu sais, parfois même, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études métisses et tout ça. Parfois, on dit 80%, parfois, on dit 60%, mais personne ne les a, les chiffres, parce qu'on les aura probablement jamais, parce qu'il y a beaucoup d'instabilité. Et même en ayant contacté le programme de démographie de l'Université de Montréal, j'ai nommé un couple, mais personne ne peut dire nécessairement que ce couple-là a donné tant d'ancêtres. Parce qu'il n'y a pas de données fixes ou
mais concrètes. Tout n'a pas été enregistré vraiment légalement. Moi, on m'a conté, je ne sais pas combien de fois, d'histoires de bons Québécois qui allaient faire du bois l'hiver dans des camps de bûcherons, qui n'étaient pas très, très loin d'un camp autochtone et qui avaient des rapports entre les Indiennes et les bûcherons. Et ça donnait des enfants dont on ne savait pas qu'ils étaient métis, entre guillemets.
Exact. Puis ces enfants-là ont grandi dans les communautés autochtones. Donc,
Ils sont des Autochtones.
Ils sont des Autochtones, c'est ça.
Ils sont des Mi'kmaq, ils sont des Abénakis, ils sont des Innus, parce qu'ils ont grandi, ils ont l'expérience, ils ont la langue.
La culture. C'est toujours une question de culture, on revient à ça.
Ouais. Mm-hmm. Comment on la définit?
On parle d'appropriation culturelle ici, là. Est-ce que dans l'autre sens, ça s'est fait, c'est-à-dire qu'un Autochtone puisse vraiment nier sa réalité autochtone, son héritage, pour devenir un blanc en plein temps et cacher le fait qu'il est autochtone.
Il y avait des clauses même dans la loi sur les Indiens qu'on appelait l'émancipation. Pour se sortir justement de ce statut de sauvage-là, les clauses sur l'émancipation ont été abrogées en 1985.
Puis même les premiers vétérans de Kanawaki qui ont fait la Première Guerre mondiale, quand ils sont revenus en 1917, ça a été voté à la Chambre des communes qu'ils seraient émancipés, ces vétérans-là. Quand ils sont revenus en 1718, les hommes et les femmes étaient émancipés, mais c'est devenu une espèce de chaos juridique parce que dans le fond... le monde, ils ont éventuellement renié ce dit statut-là d'être émancipé. Là.
Puis il y avait des émancipations volontaires, mais pas très volontaires aussi.
Oui, c'est ça.
Où le ministère pouvait décider si, OK, tu travailles, t'es allé à l'université, t'as marié, puis t'as une maison avec un terrain, bingo, t'as ton émancipation, on te donne l'émancipation volontaire. Décrété par le ministère.
Oui, oui, oui. La volonté n'est pas toujours là où on pense qu'elle est. Hein?
C'est ça.
Exact.
Qu'est-ce qu'on fait pour les Amérindiens, les Autochtones, les Métis? Cette tendance qu'on a vue dans l'émission d'enquête, là, cette tendance qu'on a pour devenir Métis, soyons francs, là, il y a des avantages financiers qui pourraient découler du fait de devenir, d'être accepté, d'être reconnu comme Métis, non?
Je pense que le gouvernement et tant le ministère provincial que fédéral vont être les responsables de ça si ça se passe. Et là, on sait que ça se passe avec Habitat Métis du Nord, qui reçoit X millions de subventions annuellement. Malgré l'enquête qu'il y a eu, là, évidemment, avec la situation du virus, ils peuvent mettre ça sur le virus, que l'enquête se prolonge et est en cours présentement, mais qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais finalement, l'organisme Waskahegan, qui habitait Métis du Nord, qui reçoit des fonds et du fédéral et du provincial pour faire des HLM, le monsieur a été mis à jour dans les médias et tout ça. Là. Monsieur, son nom m'échappe, mais c'est celui qui gère tout cet organisme-là. Il donne une grande partie de ces logements-là aux membres de
l'Alliance.
De l'Alliance autochtone du Québec.
Puis c'est supposé d'être des logements sociaux pour les Autochtones. C'est du financement qui est là pour pouvoir loger des Anishinaabés, des Abénakis, des Iyous. Donc, après ça, on se retrouve ici à Montréal. On a une crise itinérante, puis on a un des nôtres qui meurt dedans de bécoche chimique.
Ça peut être un détournement de fonds, c'est pareil. Ça se ressemble, c'est absolument incroyable. Ouais. C'est pas de l'appropriation culturelle, mais l'appropriation des fonds fédéraux destinés aux Autochtones, c'est une chose aussi, non?
Waskahegan, c'est un des meilleurs exemples dans ce sens. Ouais. Waskahegan, qui est la corporation Habitat Métis du Nord, là, c'est le nom qui se sont donnés.
Éric, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un ménage dans cet imbroglio identitaire?
Ben, il faut que les gens, parce qu'il y a le côté humanitaire de beaucoup qui disent que les registres paroissiaux, c'est pas vrai, puis tout ça, même les Autochtones, qui disent on peut pas se fier là-dessus, mais pour l'instant, on est obligé de se fier là-dessus, c'est tout ce qu'on a. Fait que si on renie ça, ben on va toujours laisser la place aux autres, aux groupuscules métis improvisés, puis tout ça, ben on va toujours se faire manger la viande surtout. C'est juste 2% d'Autochtones au Québec. Puis c'est ici qu'il y a un nombre de soi-disant métis croissant, là, des auto-identifiés, qui sont en train de manger un paquet de subventions universitaires et tout ça de choses comme ça. C'est une super grosse inégalité, parce que 2% d'Autochtones dans une province, c'est peu représentatif. Donc, je pense que vraiment, il faudrait que les ministères, tant provinciaux que fédéraux, mettent les points sur les i.
On va terminer bientôt, Éric. Merci beaucoup de ta présentation, de ta présence avec nous. Je me demandais, est-ce que c'est ton projet faire un tableau de tous ceux qui prennent des subventions et qui n'ont pas nécessairement des...
Quelle belle idée!
Mais moi, personnellement, ça a pas mal conclu mon
ton implication dans tout ça?
Oui, exactement. Okay. C'était pas mal mon point final, puis je compte même plus vraiment faire de généalogie. Je pense que le point a été établi, mis sur table vraiment.
Okay. Donc, ton prochain projet, c'est de l'histoire, plus simplement?
Oui, c'est ça. Il me reste juste un cours pour finir mon bac. J'ai comme traîné depuis 12 ans que je suis en train de finir le bac parce que j'avais mon garçon à temps plein puis tout ça, donc c'était bien compliqué.
Ouais. Ben, merci, Eric. Hein.
Alors, Dicky Timigouetch, mais merci beaucoup.
Ben, merci à vous. Hein.
Au revoir.
Au revoir. Demunyant, manjeche guanu apten, manjeche guanu beden, namanwade newad man eka e begusyan, wani gandeyan, manjeche guanu mishkaden den, espesho de pianchish que munyan, tan de mait, chibajish nagwen, chichinjish kukwen, mak mishkabet man, e mishkudun mat, tawe in the moonan, hey, qui a-t-il dans cette île? Qui a-t-il dans cette ville? Une ouverture d'esprit et le rêve d'une meilleure vie. Pour certains, c'est chill, pour d'autres, c'est plus difficile. Mais malgré les soucis, l'espoir nous sourit. L'espoir d'un meilleur avenir, l'espoir de nous voir grandir.
Float together on an island, your land and my land. This land was made for you and me, paid for, stolen and lied for, laughed at and cried for. Hey, look what we died for. An island in a dream, a mountain on a river, a meeting point, a safe place, I land and deliver. We went from trappers to rappers, from logging to blogging, triumphant disasters. Hey, what's the story of this mountain on an island, surrounded by a river, just a little taste of dry land. Your land, my land, why don't we share land? Couldn't care land, a bear land, beavers in a hair land. You gotta listen to hear it, you just don't understand, and maybe that's why you fear it. Birds of a feather make your Makusham comble. All in this together and we'll make your ensemble. Makusham Montréal.
C'était Shawit de Maliotenam avec So Called et leur Makusham Montréalais.
Un nouveau réseau de télévision.
En langue inuit.
En langue inuit et on a avec nous Jenna Amarwalik. Vous êtes là?
Oui, bonjour.
Quoi? Bonjour. Hey, c'est une bonne nouvelle pour vous, ça?
Oui, c'est très bien.
Alors, rappelez-nous un peu de quoi il s'agit. C'est vraiment un réseau complet de télévision qui va rejoindre tous les Inuits au nord du Canada?
Oui, ça va être Yukon, Northwest Territories, Nunavut, Nunavik et Labrador.
Oh wow, c'est vraiment une diffusion large. Est-ce qu'on va essayer de rejoindre un peu aussi les Inuits du Groenland, puis ceux-là qui parlent un peu la même langue en Alaska ou...
Ça, je ne suis pas sûre encore.
OK.
Qu'est-ce
je
que
pense
vous...
que non, mais parce que c'est au Canada.
OK.
Quel genre de programmation vous pensez développer avec ce nouveau réseau?
Désolé, la français, c'est ma troisième langue.
C'est pas grave. Moi aussi, c'est ma deuxième. Après le bégaiement. Donc, dites-nous simplement quel genre de programme vous voulez avoir. Il y aura beaucoup d'informations, il y aura aussi de la culture, de la musique. Quel genre de programme?
Oui, il y a plein de traditionnels. On a des films, les choses pour les enfants. C'est plein de choses depuis peut-être 1980, 90, il y en a plein de choses depuis longtemps.
Est-ce qu'il y a déjà chez les Inuits des maisons de production, les auteurs, les réalisateurs, maisons de production, les studios, tout ça existe déjà chez les Inuits?
Oui.
Qu'est-ce que ces productions, cette production, on les pouvait les voir où avant qu'il y ait un réseau de télévision?
Isuma TV.
Ah, d'accord.
Isuma.tv.
D'accord. APTN aussi?
Je ne suis pas sûre avec APTN. C'est IBC qui fait les choses avec APTN. Puis Zachary Skunuk, il a commencé avec APTN, il a travaillé avec APTN ça fait longtemps qu'il est fait Isuma TV, mais avant, il a travaillé avec IBC.
Vous allez avoir une émission d'information sur votre réseau?
Oui, on a les schedules.
OK.
C'est sur le site web.
Ah, ça va être sur le site web. OK, donc vous allez avoir une programmation juste sur le web ou aussi sur le câble?
Moi, j'habite à côté de Montréal, donc j'en ai pas la télé avec ça. Mais je crois, si vous allez sur ouvrevo.tv, c'est la même que isuma.tv, mais vous voir la schedule, puis ça va dire... qu'est-ce que ça va être 24 heures pour 7 jours? C'est comme ça.
Est-ce que ça a été difficile de mettre sur pied un tel réseau pour les Inuits, pour la télévision? C'était difficile? Ça fait longtemps que vous faites des démarches?
Ça fait juste 2 semaines.
Ah, mais ça commence. Oui, que ça existe, mais avant que ça existe, vous avez fait des démarches, vous vous êtes préparé, vous avez cherché le financement. Ça a pris beaucoup de temps?
Oui.
Combien?
Mais avec Zachary Skunuk, puis là, c'est toujours Arthur qui. C'est eux qui ont travaillé avec les gens. Aussi avec IBC, puis notre équipe avec les autres, puis avec Shaw, il y a Arctic Coop Limited.
On trouvera beaucoup. On
trouvera. Depuis quelques mois.
D'accord.
Une dernière question pour vous. Vous êtes basé à Iqaluit?
Non.
À Montréal?
Oui, mais. Aussi, notre équipe, ils sont de Iqaluit aussi.
Okay.
Il y en a une à Iqaluit et une autre à Montréal. Mais nous, à Montréal, on travaille chez nous. Moi, je suis chez moi.
OK.
Ben, nous souhaitons la meilleure des vies d'existence à ce nouveau réseau de télévision.
Beaucoup
qui s'appelle Ugavut TV. Jenna Amarwalik avec nous. Merci beaucoup et bonne chance.
Narkourmik, j'espère que je l'ai dit comme il faut.
Au revoir.
Oui, vous aussi, merci beaucoup.
Au revoir.
De t'avoir perdu, c'est pas toi, mais moi qui a fait exprès. Pardon, j'ai manqué l'arrêt. t'as mal, t'enrages, tu ne respires plus. Et j'irai voir toutes tes créations, plus croire aux grandes attractions et posséder l'art de faire plus attention. Rattrapons le temps perdu, même si ta route est ardue. Allons longer des vins en canot et être comme les cheminots. Accepte-tu comme
c'était Teven en canot de Canen, une artiste de Wahat Macmaliotenam.
La combinaison, Alexis, du froid, de l'itinérance, du couvre-feu,
mm-hmm.
fait qu'on a trouvé un itinérant mort dans une toilette.
Dans une bécosse chimique.
Ouais. Bécosse chimique. C'était un Amérindien. Je m'excuse de toujours venir qu'Amérindien à l'âge que j'ai, mais.
Un Inou.
C'était un Inou. Bon, un Inou. Là, au moins, c'est clair.
De Schefferville.
T'as sûrement un point de vue sur l'itinérance et les Autochtones à Montréal.
Ben, j'en ai un point de vue sur l'itinérance tout court. Je pense que dans la société riche comme on dans laquelle on est, le logement devrait être un droit fondamental, devrait être relié au droit à la vie, on devrait relier le logement au droit à la vie et au droit à la sécurité. Des choses qui sont des droits fondamentaux. D'un point de vue humain, ça serait la moindre des choses que d'avoir des abris pour chacune de ces personnes-là pour qu'ils puissent avoir un peu de dignité, un peu de chaleur. Comment on peut avoir le droit à la vie? Comment on peut avoir le droit à la sécurité si on est au quatre-vents, si on n'a pas un toit sur la tête? Puis d'un point de vue économique, je pense qu'on devrait même pas en parler, ça m'écœure un peu d'en parler, mais bon, mais d'un point de vue économique, je pense que aussi... c'est bien avantageux de fournir des logements. Je regardais une étude albertaine qui faisait le comparatif en combien coûte une personne itinérante année après année dans le système, comment on les laisse là dehors. Ça coûte à peu près entre 100 et 120 000 piastres par année. En termes de police, en termes de soins de santé, en termes d'incarcération, si on fait le calcul complet de combien ça coûte un itinérant, c'est ça que ça coûte à la société. Combien ça coûte l'avoir dedans un endroit qui est chauffé, puis qui peut faire en sorte qu'il va être supporté, puis tout ça? À peu près 25 000 à 50 000 par année.
Toute une différence.
Une différence. Donc, juste d'un point de vue économique, on devrait faire le switch. On devrait y penser, on devrait se dire que ça vaut la peine d'y mettre. Mais au-delà de ça, d'un point de vue humain, ça devrait juste être un droit de base de pouvoir avoir un toit sur la tête.
Pourquoi ces gens-là, je ne suis pas familier avec l'itinérance, je l'avoue bien, bien sincèrement. J'ai vu des entrevues où ces gens-là, certains de ces gens-là disaient qu'ils préféraient ça, ils ne voulaient pas avoir d'abri, mais ils voulaient être libres de dormir où ils veulent, etc.
Oui, il y a peut-être des gens comme ça qui préfèrent, qui veulent cette certaine liberté-là, mais qu'est-ce que le chef de Schefferville disait aujourd'hui? C'était qu'il manquait de logement dans sa communauté. Si on regarde à Lac-Simon, ils ont 300 maisons à peu près. Il manque 300 maisons pour que tout le monde soit confortable chez les Anishinabés proches de Val-d'Or. Donc, il y a des gros, gros, gros besoins de logement dans les communautés. Puis pour les Autochtones en milieu urbain, on l'a vu tantôt. Donc, la solution, ça serait d'investir dans le logement social. Ça serait assez clair, là.
Ben, merci, Alexis. Merci de revenir nous voir régulièrement.
On va voir sur les prochaines fois. Je vais faire comme je peux, là. J'ai pas pris de décision finale encore.
Ben, c'est pas rien, tu seras toujours le bienvenu.
C'est bon.
Salut, bonne semaine.
Merci.